Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Pèse sur Start. Mon nom est Kasi, je suis en compagnie de Christine Lemu.
Hello!
Et de Raphaël Lavoie.
Allô, allô!
Comment ça va vous autres?
Ça va bien. Puis toi?
Ça va très très bien. Ben relax, c'est bientôt Noël.
Oh oui.
Ben oui. Ben, blague à part, on est dans quoi? Un mois, jour pour jour, de Noël?
Ben oui, c'est vrai, au moment de l'enregistrement.
Un mois?
Ouais.
Mm-hmm. Ouais.
Et vous êtes prêts, vous autres?
Ça se passe, gang.
Non.
Qu'est-ce qui vous manque, là?
Tout.
Ouais. Écoute, blague à part, je comptais cette semaine profiter de la grande messe du consumérisme extrême et acheter mes cadeaux lors du Black Friday.
Donc, je fais ça chaque année.
Ben oui, je l'ai fait l'année passée, j'ai trouvé ça quand même bien. Ben, je vais pas sur place, là, vraiment, d'y aller à distance pour éviter les foules, là, parce que sinon, ouais. C'est un peu kamikaze, mais nous autres, c'est bizarre parce qu'on déménage aussi cette année dans le temps des fêtes, donc on ne décore pas. Fait que c'est un peu triste.
Oh, ouais.
Mais,
pas de sapin.
Fait que je vais finir par être à moitié prêt pour les fêtes, mais cette année, je ne le serai jamais totalement. On remet ça l'année prochaine.
Mm-hmm. Ben oui, c'est correct.
Ben, tu vas avoir un party, j'imagine, de crémalière pour ton nouveau logement?
Oui, on risque de faire quelque chose. Fait qu'on pourrait toujours le faire à thématique Noël.
Ben
écoute,
oui.
Tout le monde amène une bûche, puis on se déguise tout en Père Noël.
Fait que ça, la bonne bûche
vachon.
Ça pourrait
être une thématique
là.
Intéressante.
Ouais.
C'est un classique, hein? On va se le dire.
C'est la meilleure, je trouve. Ouais. Moi, je trouve que c'est la meilleure.
Ah ouais?
Ouais, je trouve vraiment que c'est la meilleure.
Elle est un peu trop sucrée, mais elle est bonne.
Ouais.
Mais t'en prends un petit mince, là, ouais. Mince tranche.
Avec un grand verre de lait.
Avec un grand verre de lait, effectivement.
En même temps... Un dessert, tu sais, le monde qui disent, moi, les desserts, j'aime ça quand c'est pas trop sucré. Hey, c'est un dessert, tu sais. Il faut que ce soit sucré. Tu veux que ce soit le plus sucré possible dans la plus petite surface possible, superficie de dessert. Tu veux que ce soit le plus sucré possible.
Ah,
c'est
man.
Ça l'objectif.
Oh,
je suis d'accord.
Fait que c'est ça.
Effectivement,
excusez.
Mais non, mais je suis d'accord totalement. Mais parlant de choses sucrées aujourd'hui, on a un sujet plus léger. On parle de
oui,
Nintendo.
Savoureux, oui.
Ben, mm-hmm. C'est ça, mais Nintendo, oui, c'est dans le plus léger du gaming. Pas que les jeux Nintendo sont par défaut faciles, sont pas plus faciles, mais sont plus colorés, sont plus légers, souvent. On a testé, chacun notre bord, beaucoup de choses de Nintendo dernièrement, puis on s'est dit, on va tout mettre ensemble dans un épisode du podcast, comme ça on peut vous parler de toutes les choses Nintendo qui sont sorties récemment, certaines un peu moins récemment, mais tout à l'automne, pour se préparer à l'hiver, dans le fond, si vous voulez penser peut-être à des cadeaux de Noël, ben peut-être qu'on peut vous diriger vers vers certaines décisions avec nos impressions, parce que c'est pas tout rose, mais il y a certaines choses qui ont très très bien fonctionné. On va commencer avec la niche à l'EMU. Christine, notre grande testeuse de Nintendo depuis quelques mois, tu as testé plusieurs choses de Nintendo, dont, ben, dans le fond, une nouvelle petite console, un oui. jeu et un autre jeu, dans le fond, oui. de deux franchises classiques. Le Game & Watch de Zelda, dans le fond, tu as testé mm-hmm. ça récemment. Moi, oui. j'ai tellement hâte de savoir qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, parce que je regarde ça et je me dis, ça a l'air cool, mais est-ce que c'est cool?
Écoute, on jase Nintendo, puis tu sais, on veut être super positif et tout, parce que Nintendo, c'est coloré et tout, mais je vais peut-être sonner un petit peu chialeuse aujourd'hui pour mes critiques, mais il y a quand même des bons côtés. Donc, pour la Game & Watch de Legend of Zelda, donc Nintendo a sorti une petite Game & Watch, une deuxième Game & Watch à l'occasion du 35e anniversaire de Zelda. Et donc, on le rappelle, c'est vraiment une petite console qui reproduit une des premières consoles de jeux vidéo que Nintendo a sorti 10 ans avant la Game Boy. Donc, ça a été designé par... dans le temps, c'était designé par Gunpei Yokoi, qui est le designer aussi qui nous a donné le Game Boy. Et l'appareil avait deux missions. Donc, divertir et donner l'heure. C'est exactement ça. C'est littéralement ça, c'était vraiment divertir, donner l'heure. Donc, vu que c'est une partie très importante pour Nintendo, Nintendo s'est dit, ben, you know what, on va honorer les deux plus grandes franchises de la planète Terre en sortant deux petits Game & Watch à l'effigie des plus belles franchises du monde. Donc, Mario Bros l'année dernière et Zelda cette année avec, donc c'est ça, une petite la petite console qui est, ma foi, rikiki.
Elle est toute petite, là.
Ouais, vraiment petite. Là, je veux vraiment mettre une note très importante, mise en contexte. Je suis collectionneuse, donc j'aime...
J'aime les gugus.
J'aime les gugus. J'adore amasser des gugus à l'effigie d'une franchise X ou Y. Pour vrai, je suis la première à acheter... un gros toutou à l'effigie de Kirby parce que j'adore Kirby ou que je vais acheter une statuette de Destiny 2 parce que je trouve ça unique puis qu'on n'en voit pas partout, tout le temps. Donc, j'aime ça ramasser des affaires, j'aime ça les exposer, puis j'aime ça les avoir. Pour vrai, qu'on le dise, qu'on veuille ou pas, un collectionneur, c'est un matérialiste qui aime vérifier des objets.
Un matérialiste décomplexé.
Exactement, c'est ça. Donc,
c'est bien dit.
C'est une belle façon de le décrire, exactement. Mm-hmm. Donc, je suis collectionneuse, on collectionne ici à la maison tout ce qui est jeux vidéo, on se passionne principalement sur ce qui est de Nintendo. Donc, ce qui est Nintendo, tu sais, on a presque tout, ben, tous les jeux, mettons, de ce qui est des grandes franchises, donc Mario, Zelda, on les a presque toutes. Et donc, la Game & Watch, si on se met dans mon contexte, ça serait donc un no-brainer d'en acheter dans la maison. C'est des appareils vraiment le fun à avoir, mais c'est vraiment un gadget de plus. That's it. Donc, on manque rien si on ne la possède pas. Et... ça ajoute rien de plus à la collection si on la possède, autre que d'avoir un appareil à l'effigie d'une franchise. Mais ça reste quand même, tu sais, un bel objet de collection. Je vois pas quelqu'un qui est peut-être néophyte ou qui est nouveau dans le domaine du jeu vidéo d'aller acheter cet appareil-là parce qu'il n'aura jamais l'expérience, l'ultime expérience des jeux de Zelda ou les jeux de Mario.
Ça reproduit donc, pas bien l'expérience, tu penses?
Pas vraiment, non. Donc, bien que l'appareil contient plus de jeux que son ancien, que son prédécesseur, donc celui de Mario, il y a 3 jeux de Zelda qui sont inclus. Il y a le jeu de Zelda, The Legend of Zelda, le premier sur le NES, The Legend of Zelda Link's Adventure, donc le deuxième sur le NES, et grosse déception, j'aurais vraiment voulu qu'ils mettent la version Game Boy Color, mais ils ont mis Link's Awakening, la version Game Boy normale. J'aurais vraiment voulu qu'ils mettent DX, mais on a eu droit à la version de Game Boy. J'ai joué un peu à Zelda et à Zelda 2. Je dois l'avouer, c'est un jeu qui doit être joué avec une Solus parce que c'est pas un jeu qui est super facile, c'est à jouer les yeux fermés l'aveugle, surtout le 2. Puis donc j'ai joué à Link's Awakening vu que c'est le dernier jeu que je me rappelle vivement là de l'histoire. Donc j'ai beaucoup joué au jeu puis je me suis rendu compte que soit c'est moi qui vieillis ou je trouve l'appareil vraiment petit.
Ah, c'est ça, c'est très, très petit comme appareil. Là. C'est tout petit.
C'est miniature. Pour vrai, l'écran est beaucoup plus petit qu'un Game Boy normal. Puis bien sûr, c'est vraiment un petit appareil qui est plus petit que ma main, puis j'ai des petites mains, là, qui est beaucoup plus petit que ma main, qui est un peu difficile à tenir en main. Mais tu sais, il faut comprendre vraiment là, que c'est l'origine de cet appareil-là, le Game & Watch à l'époque, c'était un appareil qui était destiné aux pas aux enfants, mais aux adultes, donc aux hommes d'affaires qui pouvaient prendre le Game & Watch et le glisser dans leur poche.
Ouais, businessmen.
C'est ça, de chemise, puis on le voyait pas. Donc, cet appareil-là était vraiment fait pour être petit, mais aujourd'hui, là, quand on a le luxe de jouer sur la Nintendo Switch ou même de jouer sur un grand écran avec le PlayStation ou même la Nintendo Switch dockée, revenir à petit comme ça, c'est à se poser la question comment on le faisait dans l'auto quand on voyageait entre Montréal et Gaspésie en vacances. Donc, c'est un super bel appareil. C'est un objet très cool à avoir, à posséder, mais on va pas en tirer une expérience changée.
Plus collectionneur pas, que jouabilité.
Exactement, c'est ça. Puis il y a une chose qui m'a beaucoup déçue, tu sais, outre que c'est très petit dans la main. C'est un appareil aussi qui sert à donner l'heure, tu sais, comme disent Game & Watch. Puis dans la boîte, il y a un socle sur lequel tu peux apposer l'appareil pour justement le mettre sur ta table de chevet. C'est ça. Puis je suis vraiment déçue que le socle qu'ils ont donné est littéralement en carton.
Oh my God!
Non! Ouais, non! Du carton? Du carton,
oui!
Ben, y a-t-il un petit motif? Y a-t-il quelque chose? Ou ben, oui, ça ressemble un peu au Google, les espèces de lunettes 3D de Google à l'époque, écoute, là, en carton? Là.
Un petit peu de A, un petit peu de B. Y a un logo de Zelda dessus en doré, puis il est comme un fini noir brillant, mais tu sais, c'est la première chose qui va briser, là, quand. Donc.
Ben, c'est sûr.
C'est un peu décevant, ça. J'aurais vraiment voulu qu'il offre au moins quelque chose d'un peu plus robuste avec l'appareil.
Nintendo, il est
Ouais, non, je sais.
Nintendo, il est socle. Pour vrai, c'est la Switch, là, la première génération de Switch, là, c'est le socle. Juste le petit, la petite pin là, qui est supposée tenir la console.
L'affaire derrière.
Avez-vous déjà utilisé ça? Parce que moi, non.
J'ai peur de l'ouvrir.
C'est beaucoup. C'est très risqué.
En toute franchise, je savais comme pas que ça venait avec la console. Jusqu'à ce que vous me. Disiez.
Mais c'est peut-être qu'il y avait de la critique dans le temps, c'est pour ça. Moi, je connais tous les petits recoins de. Mais oui, une petite pin dans l'arrière.
OK, OK. Mais tu parles pas du dock pour la télévision, non, comme d'un petit support, c'est ça.
Ouais, une petite pin. Ouais.
Qui était livré en plus de l'espèce de petit chevalet que tu peux ouvrir en arrière.
Non, c'est ça que je parle.
OK, on parle de ça.
Le petit chevalet,
on parle de ça. Je pensais que c'était un stock qui venait en plus. OK, c'est ça. Oui, oui, le petit chevalet, t'as tout le temps peur de le péter en deux à chaque fois que tu le tires. Ouais.
Mais tu sais, c'est comme, c'est moins robuste que, mettons un appareil électronique parce que tu insères des batteries. Tu sais, il y a toujours un socle que tu peux enlever, quelque chose que tu peux enlever. Mais c'est moins solide que ça.
Ah, ça fait peur.
Mais
c'est ça. C'est vraiment le même effet, le même sentiment que j'ai eu quand j'ai ouvert la boîte. Puis que la première impression, j'étais comme, ah, OK, tu sais, ça vient dans cette boîte-là. C'est normal. J'ouvre. Puis je suis comme, attends, c'est ça le socle. C'est la boîte dans laquelle ça vient.
Et là, c'est une bonne idée. Mais est-ce que l'exécution est réussie selon toi? Non.
Non. Non, pas du tout.
OK.
Pas du tout.
Et tu penses, de la façon, bon, tu dis que c'est emballé comme ça, d'après toi, quel pourcentage de gens qui vont acheter la console miniature vont jeter le socle avec l'emballage, vont le mettre au recyclage?
Étant donné que c'est le public cible, c'est les fans,
les
collectionneurs, ça serait sacrilège de jeter une boîte.
Ouais, tu jettes pas une boîte, même que tu sors pas. Tu sors pas la chose de la boîte, même.
Genre, faut pas qu'il y ait de contact avec le chaîne.
Mais c'est ça. It's not mint if it's
on est là avec le Game & Watch. C'est ça qu'il faut comprendre. On est vraiment là. On n'est pas du côté d'une console utilitaire. Je veux dire, moi, ma boîte de Switch, ça fait longtemps qu'elle est long gone, là.
Ouais, c'est ça.
Mais le Game & Watch, c'est ça, on est ailleurs. Ouais. C'est une figurine, c'est un G.I. Joe 1988 là, dans un petit emballage de plastique.
C'est
là.
C'est exactement ça. Écoute, c'est le fun comme appareil, c'est le fun à dire, OK, tu sais, j'apporte pas ma Switch, j'apporterai pas ma PS Vita, je vais juste apporter ça comme pour m'occuper sur dans le métro. Non, j'aurais pas ce réflexe-là. Ouais. Je pense pas que quelqu'un va avoir ce réflexe-là à dire je vais jouer à Zelda 1 dans le métro. Personne fait ça autre que des gens qui amènent leur Switch puis leur cellulaire puis tout parce que t'as besoin de la Solus pour jouer à ce jeu-là. Fait que le jeu, pour vrai, l'appareil est très cute, mais c'est vraiment juste un gadget de plus à rajouter dans sa bibliothèque, à côté de toutes les affaires Zelda, puis être vraiment fier d'avoir quelque chose de plus de Zelda.
C'est avec des piles ou avec rechargeable?
C'est rechargeable, au moins. C'est USB-C, bien. Fait que au moins c'est rechargeable, ils ont compris ça. C'est rétroéclairé, donc tu sais, pour vrai, c'est l'appareil est robuste en tant que tel, l'appareil est le fun, mais je vois pas l'utilité plus loin que juste un
l'avoir,
jouet.
C'est ça.
Ouais. Mm-hmm. Ouais.
Mais c'est pour voilà. ça que dans le fond que ça cible probablement plus les collectionneurs que mettons les joueurs qui veulent rejouer au jeu. Dans le fond, ils ont 30 000 options pour le faire. Là.
Puis j'étais quand même étonnée de voir que Nintendo allait de l'avant avec ça en voyant le succès ou le non-succès que la Game & Watch Mario a eu. Parce que on se rappelle, là, quand ils ont sorti la Game & Watch, c'était limité, ça n'allait pas rester sur les tablettes, c'était jusqu'au 31 mars ou des trucs comme ça. Puis on va au Walmart aujourd'hui, puis il y en a encore 40 dans les tablettes.
Oh my God!
Dans les boîtes. Fait que c'est pour ça que genre je trouve ça, c'est cute, mais c'est pas 70$ cute pour tout le monde. C'est ça.
Mais c'est le prix d'un jeu à plein prix de Nintendo. Ouais. Là.
Exact.
Fait que ça peut être justifiable quand tu le penses comme ça, parce que tu sais que Nintendo va jamais baisser ses prix. Sauf en ce moment. Il y a une vente en ce moment.
Ouais, quand même. On vous invite à aller
ouais.
sur Patreon.com. Mais oui, c'est ça. C'est 70$ cher pour peut-être les gens qui ne sont pas des collectionneurs ou des fans de la franchise. 70$ pas cher pour les collectionneurs parce que ça coûte pas cher pour un objet de collection. Là. 70$, mais ça reste 70 bidou. Là. Voilà.
Mais t'as quand même quelque chose de positif à dire sur Nintendo aujourd'hui. Un petit oui. oiseau m'a dit qu'il était adoré Metroid.
Oh my God. OK.
le nouveau
parce
Metroid.
Que, ben oui, écoute, parce que je n'ai pas aimé Game & Watch, j'ai adoré Metroid Dread. Metroid Dread est sorti en octobre. J'ai eu la chance de le tester. J'ai eu la chance d'écrire une critique là-dessus. J'ai eu la chance d'y jouer presque 20 heures à ce jeu-là, même plus que ça. J'ai adoré ce jeu-là. C'est un jeu qu'on a dévoré à la maison. On se rappelle, donc Metroid Dread est une sortie très importante pour Nintendo parce que ça marquait le 5e et le dernier épisode de la série principale de Metroid, donc la série qui a débuté il y a très longtemps.
Oui, c'est vrai.
C'était un épisode qui sortait comme 19 ans plus tard, 19 ans après Metroid Fusion, donc qui était l'épisode 4. Gros pari là-dessus parce que il y avait une marge d'erreur très mince là, quand le jeu est sorti. C'était comme ça passe ou ça casse auprès des fans. Et ça passait comme haut la main.
Oui, vraiment. Le monde a adoré.
C'est vraiment... Ouais, le monde l'a dévoré, le monde l'a adoré. C'est un jeu qui a passé l'épreuve du temps, qui a réussi à apporter du nouveau dans un style qui est difficilement renouvelable, donc le Metroid Vania.
Un Metroid, dans le fond.
Vania, ouais. C'est ça. Qui a réussi à apporter du nouveau et du nouveau qui surprend quand même. Donc, quand tu joues à des jeux, quand tu joues la map qui est changeante, les environnements qui sont changeants selon les décisions que tu prends. Donc, les va-et-vient d'un Metroid Vania habituel sont moins plats. Donc, c'est ça que je trouve, tu sais, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. De plus, les graphiques super beau, digne de Metroid. Je sais que les gens attendent Metroid Prime, mais Metroid Dread est vraiment un jeu sur lequel genre vous allez croquer puis vous allez apprécier, vous allez le déguster et le dévorer, je vous le garantis. C'est pas ennuyeux, c'est difficile. Pis c'est le fun que ça soit difficile.
Ouais, c'est ça, c'est pas facile les jeux Metroid.
Non. Puis c'est pas vrai, c'est vraiment amusant que ça soit difficile. Je crois que c'est un jeu qui va bien, qui se joue bien seul, mais qui se joue bien aussi en famille, donc avec mettons son plus jeune auquel tu veux introduire Metroid. Il va trouver ça le fun, il va trouver ça stressant, il va trouver ça angoissant, il va trouver ça palpitant à regarder parce qu'il y a de l'action partout, tout le temps. Donc, pour vrai, c'est un jeu qui mérite amplement sa place dans nos ludothèques. Nintendo a gagné son pari avec Metroid Dread et a offert aux fans et aux nouveaux joueurs un jeu qui est complet, qui s'agrafe super bien à la série et qui termine une épopée qui, j'espère, ouais, ça veut dire qu'il y en députe d'une autre bientôt. J'espère, bientôt, parce que on a très hâte de voir ce que Metroid nous réserve dans le futur.
Et on a hâte de voir Prime, mais selon toi, Metroid Dread, c'est vraiment un bon jeu avec lequel patienter.
Oui, totalement. Et non seulement patienter, mais rejouer aussi. Puis je le sais que ça va donner des belles courses de speedrun. Ça, c'est sûr que ça va donner des beaux speedruns. Donc, je vous conseille d'y rejouer. Je vous conseille de l'essayer. Et je vous conseille d'aller sur Twitch et aller voir les games de speedrun de Metroid Dread parce que c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Metroid donne toujours droit à un spectacle. Donc, je vous le recommande là, amplement pour Noël ou pour les temps des fêtes ou peu importe, là, vos vacances.
Et tout récemment, Christine, tes impressions, ça va être tes impressions un peu à l'avance. Là, t'as pas encore terminé les jeux, mais ouais, t'as commencé Pokémon Pearl et Diamond. Je vais juste les appeler Pearl et Diamond là, parce que
oui,
moi dire ouais, le nom de de
Pokémon, Brilliant Pearl, Brilliant Diamond and Shining Pearl. Écoute, j'y vais vraiment à chaud là dans mes impressions. Je vais être direct, je vais pas passer par quatre chemins. Pokémon Brilliant Diamond et il ne m'a pas charmé malheureusement.
Ben donc, voyons donc.
Ouais, écoute, c'est un jeu que j'étais super excitée quand ils ont annoncé la sortie j'étais excitée à la sortie du jeu. J'avais vraiment hâte d'y jouer parce que Metroid, moi j'ai joué à Pearl dans le temps, mais tu sais, c'est la même gamme. Metroid.
Le Metroid on your mind, j'étais trop hâte de retourner jouer à Metroid.
Ouais. Pokémon Pearl. Pokémon Pearl, dans le temps, ça a été le premier Pokémon que j'ai acheté avec ma paye.
C'est ça!
C'est
symbolique, là, quand
oui,
même.
C'est
là.
Ça. C'est un jeu super symbolique. Écoute, j'en ai séché des cours, là, au cégep, quand j'ai acheté ce jeu-là. Oui, ma cotère en a souffert. Faites pas ça à la maison. J'ai adoré ce jeu-là. Je l'ai dévoré. J'ai joué avec mes amis. On s'est échangé des Pokémon. C'est vraiment cool, tu sais. Donc, j'étais super excitée d'essayer la nouvelle vision de jeu-là que j'ai beaucoup aimé dans le temps. Puis, dès les premières minutes, j'ai été super déçue. Je me suis sentie vraiment comme dans une reproduction qui avait pas d'âme, qui était un peu fade. Pourtant, tu sais, my God, c'est un Pokémon, tu sais, c'est supposé être en balance, c'est coloré et tout. Mm. Mais non, tu sais, je le sais, on sent qu'ils ont mis genre le filtre Switch sur le jeu, puis le jeu va attirer les plus jeunes, puis je suis contente de ça, tu sais, c'est bien que ça va attirer les plus jeunes vers un style classique qu'on ne retrouve pas dans Sword, qu'on ne retrouvera pas dans Legend Arceus non plus, mais tu sais, si ça c'était l'intention, ben tant mieux, tu sais, cet aspect-là est réussi. Mais j'étais pas emballée par le look chibi des personnages.
Ouais.
C'est peut-être
C'est Pokémon Go un peu le look chibi là, qu'ils font.
Ouais, c'est ça. Puis on dirait que ils ont vraiment rendu ça un peu trop enfantin, peut-être. Parce que moi, je me rappelle Pokémon Diamond et Pearl dans le temps sur la DS. Tu sais, il y avait le petit look 3D, mais en pixel. Donc, le jeu était super beau tel quel. Donc, ça aurait parfaitement pu être juste, on prend le jeu, on l'amène sur la Switch, ça va fonctionner, ça va être parfait.
Mais là, mais... ça fâcherait une autre catégorie de personnes que quand c'est juste un port, là.
Peut-être, c'est ça, mais ce qu'ils ont fait là, c'est littéralement mettre des chibis, mais c'est pas fluide. Je trouve ça très, tu sais, c'est très carré comme les anciens Pokémon, puis ça colle pas très bien au style graphique qu'ils ont mis. Certes, il y a quelques nouveautés qui ont été ajoutées, tu peux te promener avec ton Pokémon un peu partout sur la map, donc il peut te suivre derrière toi. Sur la carte, il y a certains mouvements ou certaines actions que tu peux faire sans que ça gaspille les attaques ou les pipi points, ce que je les appelle, de ton Pokémon. Tu peux échanger tes Pokémon de ton équipe comme sur un coup de tête. Tu vois aussi, ils ont ajouté l'efficacité des attaques en dessous de l'attaque, tu sais,
c'est bon,
contre un opposant. Chose qu'il n'y avait pas avant dans le temps. Puis, tu sais, moi, je dirais, oh, franchement, moi, fallait que j'aille lire c'était quelle attaque qui était bonne puis pas bonne. Puis,
fallait s'en rappeler, oui.
C'est ça. Tu sais, là, ils ont rendu ça un peu plus facile pour rendre le jeu un peu plus agréable. Tout à fait compréhensible. Mais tout ça, c'est comme pas assez pour rendre... le jeu plus intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose de dérangeant. Probablement, c'est le visuel. Probablement, le fait que c'est pas très fluide. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que je me sens un peu trahie, tu sais. Je suis comme, ah, pourquoi vous avez fait ça, mon beau Pokémon? Il était beau, tu sais, il était beau, faire comme ça, tu sais.
C'est un lien émotif, en fait, avec Pearl et Diamond, donc
exactement.
Il faut prendre ça en considération quand même. Peut-être que quelqu'un qui arrivait avec un regard frais sur la franchise, ce serait pas la même chose.
Puis c'est ça, je dis ça vraiment genre sous le regard d'un joueur de la première heure, de quelqu'un qui a joué à Pearl, quelqu'un qui a joué aussi à Red and Blue quand c'est sorti. Tu sais, j'étais dans la grosse phase, la grosse folie des cartes et tout, des Game Boy, puis des Cable Link et tout. Tu sais, j'étais dans cette phase-là, puis j'ai, tu sais, je regarde ça vraiment du regard de quelqu'un qui est vieux, là, OK? Mais, on va le dire, là, faut dire les vrais mots.
Okay? Ouais, ouais, écoute, la franchise. Hein?
C'est ça. Mais, donc, je considère beaucoup Diamond and Pearl comme un amuse-gueule en attendant Legend Arceus. C'est dispendieux comme amuse-gueule, mais, tu sais, sincèrement, un fan qui a joué à Pearl ou à Diamond pourrait s'en passer. Sauf que, tu sais, faut quand même voir ça d'un œil un peu plus neutre. Si on veut introduire le style de jeu à un plus jeune ou à quelqu'un qui n'a jamais joué à la franchise Pokémon et qui veut l'introduire pas sur une DS ou pas sortir la Game Boy ou peu importe la façon que vous voulez l'introduire, Diamond Pearl va être une excellente introduction à la série Pokémon et au style de jeu qui était un peu perdu avec Sword et bientôt Arceus et Pokémon Go et tout. Donc, c'est un beau jeu pour une introduction pour quelqu'un qui n'a jamais joué à ce style-là, mais pour quelqu'un qui a déjà joué à Pearl ou qui a déjà joué aux anciens, donc X and Y, Sun Moon, etc., ouais. Je le conseille pas tant. Je vous conseille plus de retourner peut-être à Sword and Shield ou juste de patienter jusqu'au mois de janvier pour Legend of Arceus. Exactement, c'est bientôt. C'est vraiment bientôt. Fait que c'est encore 2 mois à patienter.
Toi, t'avais-tu joué à Pokémon Let's Go Eevee Pikachu? Tu l'avais-tu fait?
Non.
Alors, moi, je l'ai fait, mais je l'ai vraiment aimé. Moi, je l'ai adoré. C'est un remake essentiellement de Yellow, tu sais. Puis moi, je l'avais vraiment aimé, mais un peu pour les mêmes raisons que toi, t'aimes pas ce nouveau-là. je trouvais que c'était une belle refonte, c'était comme, il y avait tout un peu parce que c'est tellement vieux, ce Pokémon-là, que, tu sais, c'était, mm-hmm. c'était pas compatible un peu. Ben, tu sais, ça aurait pu fonctionner sur la Switch un peu upgradé, mais là, c'est vraiment comme full 3D, genre vraiment éclaté des couleurs comme vraiment, tu sais, des couleurs punchées. Puis, moi, je l'ai adoré. Je trouvais que c'était une lettre d'amour aux fans. Je me demande si Diamond et Pearl a suivi un peu le succès de Let's Go, ou si c'est peut-être peut-être qu'ils ont peut-être été trop ambitieux après le succès de Let's Go.
Puis je sais même pas si c'est de l'ambition, c'est peut-être plus juste un peu de la paresse pour dire qu'ils sortent de quoi en attendant qu'un jeu, que l'autre jeu sorte.
L'autre sort dans un mois, là, dans deux mois, calmez-vous.
C'est pour ça que j'aurais voulu s'ils font une refonte, qu'ils refassent une refonte complète, probablement plus comme Let's Go ou Let's Go Pikachu ou Eevee, c'est vraiment...
Ils ont vraiment refait le jeu complet.
Ben c'est ça, une vision différente de Diamond and Pearl, qui était déjà très bon à la base, qui avait une histoire très cool, une map magnifique, une génération de Pokémon vraiment nice.
Ouais, c'est des Pokémon cool, là.
C'est ça, exactement. Donc, j'aurais probablement voulu qu'ils fassent comme qu'ils reprennent Diamond and Pearl, puis qu'ils littéralement fassent une refonte complète au lieu de juste
slapper des skins dessus.
C'est slapper un skin. C'est exactement ça. Mm. Puis je trouve ça juste un peu paresseux.
Ouais, c'est décevant, ça.
De le faire. Mais, comme je dis, c'est un jeu qui va être parfait pour introduire la série à des nouveaux joueurs. Pour les jeunes, là, je vous le recommande, surtout pour leur dire, hey, guys, j'ai joué à ce jeu-là quand j'étais plus jeune. Puis je voudrais te le conseiller sans avoir à aller chercher un Game Boy, à trouver un Red and Blue qui est encore fonctionnel, puis une petite lumière parce que le Game Boy, il n'y a pas de lumière. Fait que, tu sais, c'est vraiment un beau jeu pour une nouvelle génération de joueurs, mais pas pour les plus vieux. Voilà.
Décevant, mais en tout cas, tu nous laisses beaucoup de choses auxquelles penser, Christine.
Ouais.
Ben, merci.
Ça fait plaisir.
On passe à la chronique de Raph. Raphaël Lavoie.
Adio!
Adio! Ben là, tu t'en viens mettre la party du positif un peu. Christine a été
littéralement,
un petit peu plus déçue. Elle était un petit peu plus déçue, mais pas toi, par contre. T'as pas été tant déçu que ça, là. On va parler c'est Mario Party Superstar.
Exactement. Écoute, moi, j'ai pas le même attachement émotif qu'on pourrait dire que Christine à tout l'héritage de Nintendo. Je le dis à peu près à chaque podcast que le bon Dieu crée avec nous autres. Je suis un petit gars de PlayStation. Vous allez finir par le savoir à un moment donné. Donc, Nintendo, en fait, moi, c'est vraiment venu avec la mi-vingtaine et la possibilité d'acheter toutes les consoles de jeux que je voulais ou presque. Donc, j'ai pas cette espèce de bagage-là émotif. Ce qui est bien qu'on arrive sur un jeu comme Mario Party Superstars, parce que pour la très bonne raison que c'est un titre qui est un peu un greatest hit de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans la franchise Mario Party. Donc, on a pris des mini-jeux des 10 premiers volets de la franchise et on a remis ça au goût du jour, autant au niveau du gameplay que des graphismes. On est allé chercher 5 plateau classique de Mario Party de Nintendo 64. On a tout mis ça dans un shaker et ça a donné Mario Party Superstars, qui est, il n'y a vraiment pas d'autre meilleure façon de le dire. C'est un greatest hit vraiment de Mario Party. Donc, c'est sûr, moi, j'ai pas, comme je disais, la profondeur de quelqu'un qui a joué aux jeux originaux. Bon, j'y ai joué comme tout le monde dans des fêtes, des célébrations avec des amis, avec des cousins, des cousines et compagnie, de dire, OK, on se fait un petit Mario Party. Tu sais, je jouais à Mario Party peut-être une fois aux 2 ans, tu sais, sur une 64.
On défonçait les pommes de main, là.
Oui, ben le pire, c'est qu'ils l'ont mis le jeu, mais je crois qu'il y a un avertissement à cette heure.
Attention à vos pommes de main, vous allez vous faire un trou.
Ouais, une question de brûlure ou d'endommager le stick, en tout cas.
Vous voulez vous jouer comme je suis
pas sûr à 100%, mais sans, oh, ouais, ben peut-être ça va régler le problème, qui sait. mais bon. On divague un peu, là. Revenons à Superstars. Mais donc, bref, c'est le 12e volet de la série, si on parle sur les consoles de salon, qui, bon, ça suit quelques années plus tard, Super Mario Party, qui était le premier sur Switch. Et, ben, je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai adoré Mario Party Superstars jusqu'à maintenant. Bon, je l'ai pas testé dans des conditions difficiles, c'est-à-dire des parties de Noël, des parties de bureau, des parties en général. Ça a été beaucoup, moi, ma blonde, écoute, même pas d'amis encore, parce que bon, écoute, c'est un peu le confinement. Bon, c'est pas complètement le confinement, mais écoute, c'est encore, comme tu dis, un peu compliqué. On déménage en plus, comme je disais en début d'émission, donc c'est le bordel chez nous. Je l'ai pas essayé dans des conditions idéales, mais jusqu'à maintenant, c'est un jeu que je trouve excellent. Et j'ai pas le terme francophone, mais français, mais c'est très focus, je pourrais dire, ce qui est pas toujours le cas dans les jeux de sideline, qu'on pourrait dire, de Mario, là,
ouais,
les jeux de sport, les Mario Kart de ce monde, les Mario Party, des fois tu vas avoir du fla-fla, des fois tu vas avoir... Oui, Olympique, c'est l'exemple parfait. Tu vas avoir du superflu. Mario Party Superstars, c'est un great asset. Donc, on est allé chercher une centaine de jeux des 10 premiers Mario Party. En même temps, on a fait une certaine attrition. Tu sais, veux pas, on est allé chercher ce qui fonctionnait le mieux. Et la plus belle chose... surtout après Super Mario Party et, bon, les Mario Party qu'il y a eu sur Wii U et sur Wii, c'est que tous les mini-jeux se jouent avec des contrôles classiques. Donc, vous n'avez pas à faire le singe en avant de votre télévision avec votre Joy-Con, là. Ça, c'est terminé, cette époque-là.
Ah, yes! Yes.
Ben, c'est terminé pour le moment, pourrions-nous dire. Mais ce qui fait que c'est un Mario Party qui est hyper accessible. Écoute, tu joues avec des boutons, là, ça prend pas la tête à Papineau pour maîtriser le tout. Il y a une sélection, donc c'est ça, d'une centaine de jeux, de mini-jeux en fait, qui vient de plusieurs classiques de la franchise, donc sont à peu près toutes représentées. Dans l'ensemble, j'ai adoré ça, c'est vraiment bien. C'est... Écoute... je sais pas trop comment le dire, mais ça fonctionne. Tout simplement, ça fonctionne. Bon, tout n'est pas rose, parce que, bon, une critique, faut que ça reste quand même une critique, faut que ce soit objectif malgré tout. Une centaine de mini-jeux, ça a l'air beaucoup, mais dans un Mario Party, quand vous jouez encore et encore avec le même groupe d'amis de façon rapprochée, tu sais, mettons pas une fois par année, vous pouvez passer au travers de ces 100 jeux-là relativement vite. Mais au-delà de ça, le problème encore plus majeur, ben le problème, le petit défaut, entre guillemets, c'est le nombre de plateaux qui, à mon avis, est très limité. On parle de 5 plateaux. Donc, si vous êtes du genre à jouer de façon classique à Mario Party, vraiment d'y aller pour un plateau, pas d'y aller à la pièce avec les mini-jeux, ben vous avez 5 aventures qui est... Bon, comparable, je dirais, à plusieurs titres précédents de la franchise. Alors que, bon, là, c'est un great asset, là. On aurait pu aller chercher une quinzaine de plateaux, aller chercher beaucoup plus de contenu là-dessus. Bon, je comprends que tout a été refait, et c'est très bien refait, là. C'est sûr, j'ai pas les référents d'origine, mais reste que, bon, c'est moderne au niveau des contrôles. Tout a très bien vieilli, ou du moins a été très bien modernisé. Mais ça fait en sorte que quand même, vous avez 5 plateaux sur quelque chose qui est supposé être une compilation. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu décevant de ce côté-là.
Mais c'est,
est-ce mais que, au final, ça...
Est-ce que c'est potentiellement une ouverture à DLC, ça, tu penses?
Peut-être. Écoute, c'est un modèle d'affaires que Nintendo semble adopter de plus en plus, surtout avec l'idée d'un forfait Nintendo Online qui est un forfait premium qui a été mis en place plus tôt cette année. On a vu un DLC payant du côté d'Animal Crossing New Horizon. Est-ce qu'on pourrait voir la même chose du côté de Superstars? Peut-être. Encore là, écoute, on a l'expérience de Mario Golf plutôt cette année qui a eu des nouveaux parcours, des nouveaux golfeurs de façon gratuite dans le jeu. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que peut-être que Mario Party Superstars pourrait être un peu plus propice à un DLC étant donné que, bon, c'est... On joue la carte de la nostalgie, on joue la carte des souvenirs, donc c'est quelque chose qui serait possiblement... Bon, malheureusement, vendeur, là, de dire hey, voici 50 nouveaux mini-jeux, voici 5 plateaux supplémentaires de l'époque de la GameCube, de l'époque de crime, on va chercher de quoi sur la Wii ou quoi que ce soit. Écoute, c'est possible, mais c'est sûr que bon, dans l'enveloppe actuelle, c'est le meilleur Mario Party sur la Switch, c'est le meilleur Mario Party. Depuis plusieurs années, c'est un Mario Party classique. Donc, si vous êtes tanné des Mario Party, où est-ce que vous avez besoin d'agiter la manette un peu partout, comme si votre vie en dépendait, ben c'est plus le cas. Oui, c'est ça. Les accidents de téléviseur, c'est terminé avec Mario Party Superstars.
T'es pas fan de Motion ici.
Donc,
hein?
Pas tant, non, c'est ça. Pas tant. Ben, c'est le fun quand c'est mis de façon avec parcimonie, là, on pourrait dire. Tu sais, si sur les 100, il y avait eu, je sais pas moi, 25 jeux avec des motion control, c'est correct, c'est comme tel. Mais tu sais, un titre comme Super Mario Party qui était du 60-75% presque de jeux avec vraiment le motion control, ben c'est sûr que c'est pas le genre de truc qui te tente toujours. Et Mario Party veut pas, bon, c'est une série qui bon, après une dizaine de volets, s'est métamorphosée au fil des années, mais c'est sûr que les origines de la franchise, ça reste une manette, ça reste quand même des mini-jeux avec des boutons, un schéma de contrôle classique. Après ça, est-ce que ça vaut le coup, Mario Party Superstars, après tout ce que j'ai dit, à 80$? Oui, si on le considère comme un volet original, dans le sens que si vous n'avez pas joué aux anciens et que vous vous dites, bon, écoute, j'ai joué, je sais pas, moi, j'ai joué à Super Mario Party, j'ai joué à Mario Party 10 sur la Wii U, vous êtes une des 8 personnes qui ont acheté une Wii U au Québec et vous avez joué à Mario Party 10, ben, écoute, je pense que ça vaut la peine parce que, écoute, c'est comme un nouveau jeu. C'est 80, c'est le prix d'un jeu Nintendo et compagnie, ça va. Et si on le voit dans l'optique de quelqu'un qui a joué, mettons, à tout ou la plupart des Mario Party, oui, il y a le facteur nostalgie, puis tout est refait, donc c'est pas un port, c'est quelque chose de plus, c'est quand même un remake. Mais est-ce qu'on aurait dû y aller peut-être avec un genre de prix de 65$ comme les ports qu'il y a eu récemment de Skyward Sword qui est dans ces prix-là? Peut-être. Donc, je dis, c'est très individuel. C'est comme dur d'y aller avec une réponse universelle là-dessus. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut le 80$ parce que j'ai pas le bagage de j'ai joué à toutes les Mario Party. J'ai joué au dernier, fait que moi, d'arriver avec une collection de 100 mini-jeux, de 5 plateaux, qui sont tous avec un schéma de contrôle classique, pour moi, c'est gagnant. Et si vous êtes nostalgique, possiblement aussi, si vous êtes du genre à avoir votre GameCube, votre 64, prêt à l'action, vous avez des manettes en bon état et vous avez les vieux Mario Party, ben, écoute, une belle couche de peinture, là, mais je ne sais pas si c'est pour vous. Donc, mais comme tel, personnellement, moi, je trouve que c'est un ensemble gagnant et je trouve que c'est un modèle qui pourrait s'appliquer à d'autres franchises. de Nintendo. On pense au Mario Kart, on pense aux jeux de sport, l'idée d'un best-of où est-ce qu'on va refaire de fond en comble les mini-jeux, les mécaniques, les graphismes. Je pense que ça pourrait être un modèle intéressant, beaucoup plus que les simples ports qu'il y a eu, les portages bare bones qu'il y a eu dans les dernières années. Après ça, à quel prix? C'est toujours la question avec Nintendo. Est-ce que c'est rare qu'il y a vraiment un mauvais jeu de Nintendo? C'est toujours des bons jeux, d'une manière ou d'une autre. Des fois, il y a des trucs qui clochent, mais dans l'ensemble, il y a toujours quelque chose de bon à retirer des jeux de Nintendo. Mais encore une fois, c'est une question de prix et c'est une question de suivez-vous la franchise depuis des années, à mon avis. C'est toujours ça qui revient. Puis bon, avec Mario Party Superstars, c'est encore ça. Moi, je l'ai aimé, mais je ne sais pas pour vous.
T'sais. Ben, tu m'as quasiment convaincu plutôt de le checker parce que je trouve que les arguments sont bons pour redécouvrir justement les vieux jeux qui étaient marquants. Ouais. T'sais, mais tu sais, je m'en rappelle plus full quand même des jeux. J'ai goût de réessayer. Fait que je me dis, peut-être la bonne façon, vu que moi, je suis plus mini-games. J'aime beaucoup les jeux où est-ce qu'il y a plein de mini-games dedans. Autant Wario que les autres titres de Super Mario qui ont eu des mini-games dedans. Ou juste des mini-games. J'avais une petite cassette, la 3DS, que c'était juste des mini-games. Moi, je capotais. Là, je voulais juste faire ça dans la vie.
Mais tu fais le tour. Puis écoute, si je peux rajouter une couche par-dessus ton envie d'acheter Mario Party Superstars, je dois dire que la façon qu'on a aménagé le mode libre de mini-jeu, c'est très intéressant parce que, bon, vous avez différentes façons de les jouer, différentes combinaisons, en fait, selon si vous êtes deux, vous pouvez être deux, vous pouvez jouer à 2 contre 2, 4 contre 4. Si vous êtes seul, vous pouvez jouer... ça a l'air simple dit comme ça, mais il y a quand même plusieurs schémas et c'est comme vraiment adapté dans la sélection des jeux. Il va y avoir des mécaniques de vote, par exemple. Donc, c'est pas nécessairement vous choisissez un tableau d'atit-datsal ou des sélections. Je sais que dans Super Mario Party, c'était plus limité un peu la façon de jouer ces jeux-là. Il fallait y aller vraiment à la pièce si on voulait être un peu plus libre de nos choix. Sinon, c'était un peu toujours la même chose qui revenait. Mario Party Superstars, si vous avez pas envie de faire les plateaux, même si les plateaux sont très bien, vous avez quand même une liberté d'aller... de vous amuser malgré tout dans le jeu libre, contrairement peut-être au volet précédent. Donc, écoute, c'est ça, achète le quasi.
Je pense que oui, je pense que je vais l'acheter comme ce soir.
Je sais pas vraiment quoi dire.
Puis, l'aspect, là, tu disais tantôt justement, vu que c'est des contrôles plus classiques, donc l'aspect accessibilité pour l'aspect party, là, tu sais, t'es dans un Noël s'en vient, donc les petits parties vont revenir. Est-ce que c'est le genre de truc que quelqu'un peut, que la manette, qu'on peut prendre la manette en main, puis que c'est facile de jouer, ou contrairement, mettons, à les jeux où est-ce que c'était plus axé sur le motion, que t'étais comme « Ah, je sais pas trop comment bouger, puis je comprends pas comment ça marche. »
Ben, je pense qu'il va y avoir, il y a des arguments pour vraiment les deux clans, en fait. C'est sûr qu'à la base, les Mario Party, je dirais quand même particulièrement les jeux qui ont été choisis dans Superstars, c'est rare qu'on se retrouve devant un niveau à la Céleste ou à la Hollow Knight où est-ce que vous devez faire preuve d'une précision magistrale pour réussir à remporter le mini-jeu. Ça reste des schémas classiques, ça reste que parfois il peut y avoir des questions d'habileté, des questions de rapidité, ben c'est un peu ça la base au final. Mais je pense que même quelqu'un qui n'est pas nécessairement habitué à jouer à des jeux vidéo va pouvoir prendre en main facilement ces jeux-là. Plus facilement que des motion control, je pense que oui, dans certains aspects du moins, parce que bon, motion control, si on compare à l'autre volet de Mario Party, Super Mario Party sur la Switch, il y a certains jeux qui étaient très simples, que c'était très clair, là. Tu sais, ils allaient te dire quoi faire avec ta manette, mais il y avait certains autres jeux, je pense à un jeu où est-ce que t'es en bateau et il faut que tu rames, où est-ce qu'il faut que tu prennes ta manette et que tu lèves un bord, tu lèves l'autre pour faire comme vraiment une espèce de... Comme si tu ramais, en fait, avec ta manette et que tu le fasses rapidement, ouais. Ben, ta grand-mère de 80 ans ne comprendra peut-être pas le principe. Il y en avait que c'était très simple, que c'est pointé ou que ça utilisait le gyroscope ou est-ce que, tu penses à ta manette comme si c'était un bocal avec des roches qu'il faut que tu sortes du bocal, puis là, tu bouges le bocal pour fitter les roches avec l'ouverture. Dans Super Mario Party, il y avait aussi un jeu qui était avec une petite poêlonne avec un morceau de bœuf cubique dedans. Là, c'est très simple, tu fais juste lever ta manette comme si c'était une petite poêlonne. Et écoute, c'est simple, mais il y en avait qui étaient plus complexes. Puis... Même, bon, écoute, on vous rappelle, le podcast est enregistré devant le public, donc il y a des commentaires et je vais juste faire un petit aparté. Mike qui dit qu'il y a un practice mode dès le départ, oui, ça aide. Mais pour avoir joué à Mario Party avec ma grand-mère de 80 ans, là, des fois, même le mode pratique, là, après 15 minutes dans le mode qui recommence encore et encore, ben ça marche pas des fois.
C'est catastrophique.
Tandis que si t'expliques que tu prends les flèches pour diriger, ben tu prends le joystick pour diriger le personnage, puis tu vas cliquer sur tel bouton pour faire telle action, ben ça sera peut-être pas super fluide, mais c'est clair, tu sais. Mais écoute, en même temps, il y avait des jeux que effectivement avec le motion control, c'était simple, puis ça s'expliquait bien, puis c'était universel pour les enfants, puis ça fonctionnait bien. Mais je pense si on fait une moyenne, mettons, là, je pense que c'est peut-être plus accessible avec les schémas de contrôle classiques.
Bon,
ben excellent, Raph. Merci pour ta belle chronique. Je vais aller acheter le jeu dans une vingtaine de minutes. Là. On va passer au mot de la fin. Merci Christine Lemieux, merci Raphaël Lavoie pour notre spécial Nintendo aujourd'hui.
Plaisir.
Merci à toi.
Ben oui, moi, la prochaine épisode, je vais vous parler de Zelda, là, sur Zelda Ocarina of Time sur la Nintendo Switch, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je veux l'approfondir encore plus, parce que j'ai pas encore essayé tous les jeux qui sont offerts sur l'Expansion Pack, mais je vais vous en parler la semaine prochaine, ou dans un podcast prochain, parce que je suis pas d'accord avec beaucoup des gens sur Internet pour une fois.
Wow!
Le vent, il est plus négatif, puis moi, je suis plus comme, ben, voyons donc. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Qui a fait pipi dans vos céréales? Moi, je trouve ça excellent. Mais en tout cas, que je suis très emballée à date, mais on va en parler une autre fois. D'ailleurs, justement, on vous invite à nous suivre sur twitch.tv/paysofstart. C'est là que j'y joue, dans le fond. Moi, je suis en train d'avancer Ocarina of Time. On est rendu au Forest Temple! Donc, avant, tu sais, arrivez pas au Water Temple. Arrivez avant ça, je vais avoir besoin de soutien quand même. J'ai pas le goût de faire le Water Temple. J'ai vraiment pas le goût.
Oh non.
Mais sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et bien sûr, évidemment, toujours sur paysofstart.com. On est en plein mode de Black Friday en ce moment. Il y a plein de rabais sur notre site. C'est vraiment extraordinaire. Allez faire votre shopping de Noël. On a plein de suggestions.
Ouais.
Et surveillez aussi nos page Facebook et Instagram, parce que peut-être des concours qui s'en viennent, peut-être qu'on fait tirer des choses qu'on aimerait nous-mêmes gagner.
Qui sait?
Donc, je vous dis merci, chers auditeurs, et on se voit la semaine prochaine.
Bye!
À bientôt!